Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
La Syrie au comble de l'horreur après l'attaque au gaz de mercredi sur un des quartiers périphériques de Damas. Les images bouleversantes de ce massacre ont fait le tour de la planète. Difficile de savoir ce qui s'est passé. Une prudence à laquelle invite Mgr Tomasi, l'observateur permanent du Saint-Siège à Genève. Vous entendrez également la réaction de sa béatitude, le cardinal Bechararaï, patriarche d'Antioche des Maronites. En tant que Libanais, il suit de près ce qui se passe en Syrie. La paix, l'Église catholique du Japon veut la préserver. Pas question pour elle de toucher l'article 9 de la Constitution qui consacre le pacifisme de l'archipel. Pourtant, le gouvernement a affiché sa volonté de retoucher ce texte fondateur du Japon moderne. Nous parlerons ensuite des enfants d'Italie, de Centrafrique ou du Sénégal. Quel que soit le pays ou le continent, ils sont victimes d'abus de toutes sortes. Esclavage sexuel ou enrôlement militaire en République centrafricaine ou condamné à vivre dans la rue à Dakar. Nous en reparlerons avec Save the Children ou la directrice du SAMU social de Dakar. Bienvenue dans le magazine de radio Vatican. Dans le terrible conflit syrien, qui croire ? Les photos de l'attaque chimique de mercredi matin sur un quartier périphérique de Damas ont fait le tour du monde. Elle montre des femmes, des enfants et des hommes morts, probablement tués par des armes chimiques. Ce dernier fait de guerre a provoqué la consternation et la colère dans le monde entier. Mgr Silvano Tomasi, observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève, a lui aussi réagi, mais préfère rester très prudent sur ce qui s'est passé mercredi. Thomas Chabol.
Il ne faut pas avancer de jugement avant d'en avoir les preuves suffisantes. Pas question de pointer le doigt sur le régime ou sur les rebelles avant de savoir avec précision qui sont les auteurs de ce massacre. Pour cela, Mgr Tomasi espère que les observateurs des Nations Unies fassent toute la lumière sur cette nouvelle tragédie. L'observateur permanent du Saint-Siège à Genève se demande toutefois quel intérêt immédiat aurait le gouvernement de Damas à provoquer une telle tragédie en sachant qu'il en sera de toute façon rendu directement coupable. Comme dans les enquêtes pour homicide, il faut se demander, mais à qui profite vraiment ce genre de crime inhumain ? Ce dernier épisode de la guerre civile qui déchire la Syrie depuis 2 ans et demi est une nouvelle preuve que la seule solution pour y mettre un terme reste le dialogue. En ligne de mire de l'Observateur, la conférence Genève de maintes fois évoquée est toujours reportée depuis juin dernier. Aucune condition préalable ne doit être posée, comme par exemple exclure l'un ou l'autre groupe concerné. Cet effort me semble absolument nécessaire pour arrêter la violence, selon Mgr Tomasi. Il faut aussi cesser d'envoyer des armes, tant à l'opposition qu'au gouvernement, car ce n'est pas en livrant de nouvelles armes aux Syriens que l'on crée les conditions de la paix. Il demande aussi à tous d'éviter les simplifications d'une réalité très complexe qui rend caduque toute analyse. Une entreprise plus que difficile dans une Syrie morcelée, déchirée.
Thomas Chabol, et parmi les réactions sur cette attaque au gaz, nous avons recueilli celle de sa béatitude, le cardinal Bechararaï, patriarche d'Antioche des Maronites.
Nous, nous regrettons vraiment pour tous les événements qui arrivent en Syrie, et surtout hier et dans différentes parties du pays. Nous ne cessons de faire l'appel du Saint-Père pour la pacification et la solution pacifique des différents politiques existants. Mais nous regrettons beaucoup que, malheureusement, les différents pays, soit de l'Orient, soit de l'Occident, n'appellent pas au cessez-le-feu, mais ils fomentent toujours plus la guerre et envoient armes et argent. Et malheureusement, ce que nous voyons, ce sont toujours les fondamentalistes qui prennent la relève. Et nous ne voyons pas une issue sans que la communauté internationale puisse agir en responsabilité et faire cesser cette guerre où les victimes innocentes tombent tous les jours. Et nous, au Liban, nous avons presque maintenant 1,5 million de réfugiés syriens. Ce n'est plus tenable, ce n'est plus acceptable. Nous sentons que la conscience internationale est morte. Pourquoi laisser ce feu qui continue et cette guerre qui ne cesse jamais et qui toujours offre de nouvelles victimes innocentes en Syrie et dans d'autres pays?
Béatitude, est-ce que vous pensez qu'avec cette attaque chimique qui a fait quelques centaines de morts, est-ce que vous pensez qu'une nouvelle étape a été franchie dans le conflit syrien ?
Il n'y a aucune lueur de lumière qui puisse nous dire comment va se terminer. Ce que nous voyons tous les jours, c'est l'aggravation de la situation et c'est toujours la violence. Il faut absolument que la communauté internationale agisse et que les bonnes volontés puissent mettre fin à toute cette recrudescence de la guerre.
Sa béatitude, le cardinal Béchara Rai, patriarche d'Antioche des Maronites, joint par Manuela Afigi. Le prix de la guerre, les Japonais le connaissent trop bien. Au début du mois, ils ont commémoré les explosions des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, une des conséquences de la défaite du Japon à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et l'imposition d'une constitution pacifique. L'article 9, notamment, interdit au pays de recourir à la guerre comme moyen de règlement des conflits. L'archevêque de Tokyo, Mgr Okada, a souligné récemment que cet article est un trésor dont le Japon peut être fier, soulignant que les Japonais ont la responsabilité la plus aiguë de protéger et de promouvoir ce texte de loi. Cette intervention du président de la conférence épiscopale japonaise n'est pas que le simple rappel d'une évidence. Elle vise à défendre le pacifisme du Japon face à un mouvement qui prend de l'ampleur et vise à assouplir les règles, ouvrant la voie à une révision de la Constitution. Olivier Tosseri.
Le Japon n'a tué personne du fait de la guerre et aucun Japonais n'a été tué du fait de la guerre. C'est pour perpétuer cela que Mgr Okada a pris la plume pour défendre le caractère pacifique de la Constitution. La récente montée des tensions en Asie autour principalement de la Corée du Nord et des îles Shinkaku ont relancé le débat autour de cet article 9 qui empêche l'archipel de mener toute guerre et le place de fait sous la protection militaire des États-Unis depuis 1945. Au sein du Parti libéral-démocrate, revenu aux affaires fin 2012, la tentation d'effacer cet article est grande depuis longtemps. La volonté du Premier ministre de modifier le mode de révision de la Constitution en le simplifiant est perçue comme le premier pas vers une suppression du pacifisme officiel. Une chose impensable pour l'Église catholique du pays qui veut préserver ce trésor. Cette réforme ne serait par ailleurs qu'un des volets d'une refonte complète de la loi fondamentale. Le rapport entre l'État et les cultes, l'enseignement du patriotisme, les droits fondamentaux des citoyens seraient également modifiés. Autant de sujets délicats sur lesquels l'Église entend rester vigilante et faire entendre sa voix, car le Japon, de par son histoire, demeure à bien des égards un exemple des horreurs de la guerre et de la nécessité de maintenir la paix au prix du dialogue, comme le rappelle souvent le pape.
Un bel exemple de solidarité entre religions. Au Nigeria, les chefs religieux chrétiens et musulmans de l'État du Plateau, dans le centre du pays, ont appelé à une mobilisation de leurs fidèles pour reconstruire ensemble les églises et les mosquées de leur région, détruites dans des attaques ou des émeutes. L'archevêque de Jos, la capitale de l'État, Mgr Ignatius Keigama, et l'imam de la mosquée centrale de la ville, le cher Balarab Daoud, ont souligné la nécessité pour les populations de revenir à l'époque où musulmans et chrétiens vivaient ensemble, pas dans des communautés séparées, comme c'est le cas depuis que les conflits intercommunautaires ont commencé il y a un peu plus d'une décennie. Nous avons décidé d'être à la pointe de la lutte contre la polarisation et la division des deux communautés, divisées par des clivages ethniques et religieux, ont ainsi déclaré les deux dirigeants religieux. Rapport accablant pour l'Italie, celui de l'ONG Save the Children, sur les mauvais traitements dont sont victimes les enfants. Selon l'organisation, ils étaient en 2010 2400 dans la péninsule à être victimes d'exploitation sexuelle, d'exploitation dans le travail ou victimes de la mendicité ou d'activités illégales. La plupart de ces mineurs sont originaires d'Europe orientale, du Nigeria mais aussi d'Égypte. En tout, en Europe, ces petits esclaves invisibles seraient 9500. Dans le monde, l'ONG recense près de 21 millions d'enfants réduits au travail forcé. Ces activités criminelles rapporteraient des milliards de dollars aux organisations de type mafia qui réinvestiraient ensuite l'argent dans la drogue ou les armes. Les filles représentent les premières cibles de ces trafics. Selon l'ONG, ces chiffres ne seraient que la partie cependant immergée de l'iceberg et devraient pousser les institutions ainsi que les citoyens à prendre conscience de ce problème. Ce dossier sur les esclaves invisibles est publié la veille de la journée du souvenir de l'esclavage et de son abolition qui a lieu le 23 août, ce vendredi. Autre pays où Save the Children tire la sonnette d'alarme, la République centrafricaine. Près de 5 mois après la prise du pouvoir à Bangui par les rebelles du Séléka, la Centrafrique s'enfonce dans la peur et la crise humanitaire. Dans un rapport, le Conseil de sécurité de l'ONU dénonce un nombre croissant d'exactions et d'incidents attribués à des éléments incontrôlés du Séléka. Pillage, cambriolage ou encore agressions sexuelles. Les agressions sexuelles dont sont notamment victimes des enfants. Selon Save the Children, plus de 100 000 enfants sont ainsi confrontés à l'esclavage sexuel et sont enrôlés dans des groupes armés. Maria Vangeshi, directrice de Save the Children en Centrafrique, témoigne de cette situation.
Les enfants ne sont pas à l'école, ils sont menacés par les risques d'être abusés, exploités. Et il n'y a personne, les communautés ne sont pas ensemble pour prendre charge des enfants. Ils ont aussi, bien sûr, des problèmes psychosociaux. Et si personne n'intervient, on aura un grand, grand problème dans l'avenir. On sensibilise les communautés, on sensibilise les autorités pour qu'ils puissent comprendre que ça, c'est pas une situation normale et c'est pas acceptable.
Qu'est-ce qui, selon vous, serait nécessaire pour mettre un terme à ces violences que subissent les enfants?
Pour nous, ce qu'on voit, il n'y a pas de ressources suffisamment dans le pays pour tout faire. Il y a beaucoup de besoins et on demande si les communautés internationales pour allouer quelques montants au pays pour qu'on puisse mettre en place le projet et le système qui peut protéger les enfants. Ce qu'on suggère, c'est des petits projets, mais le besoin est très grand dans le pays. Sans le moyen financement, on peut faire des petites choses, mais ça ne suffit pas pour un changement, pour assurer la protection des enfants au pays.
Qu'est-ce que l'ONU pourrait faire de plus?
S'il n'y a pas la paix, on n'a pas l'accès aux enfants. Donc, tout ce qui peut être mis en place pour assurer qu'il y a accès aux enfants et la population se sent à l'aise pour sortir de la brousse, de venir chercher les soins pour eux-mêmes et pour leurs enfants, ça va nous beaucoup aider. Toutes des choses qui peuvent être faites pour assurer qu'il y a la sécurité pour nous, pour travailler dans tous les zones que nous avons ciblées, ça va nous aider aussi beaucoup.
Comment concrètement protégez-vous ces enfants?
Ce qu'on a fait, on avait créé des espaces pour les enfants. On les encourage de venir et être ensemble dans ces espaces. On forme la communauté pour comprendre que les enfants doivent être toujours protégés. C'est un problème qui existe ici, que parfois les enfants sont oubliés. Et maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est de travailler à travers les communautés, aussi avec les chefs de village et les chefs de quartier, pour qu'ils puissent comprendre l'importance et assurer la protection des enfants. On va les sensibiliser de beaucoup de choses qui concernent la vie de l'enfant pour qu'ils puissent comprendre être capable d'identifier des problèmes psychosociaux que nous sommes prêts pour prendre en charge et assurer que l'enfant est guéri ou sera pris en compte dans notre programme pour le support psychosocial.
Si on n'arrête pas ces violences sur les enfants, est-ce qu'on pourra parler d'une génération perdue?
Si on ne réagit pas aujourd'hui, comme j'avais le dit, ça peut arriver. On ne peut pas dire, ça ne peut pas arriver, mais c'est à cause de ça, nous tous, on est là pour assurer que ça n'arrive pas.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. Et les violences en Centrafrique touchent également l'Église. Selon l'agence Fides, dimanche 18 août, des rebelles du Séléka ont mené des représailles dans l'ouest du pays contre de jeunes chasseurs qui avaient précédemment tué 4 membres du groupe rebelle. Ces jeunes étaient exaspérés par les continuelles vexations que leur infligeaient les rebelles. Prêtres et religieuses des Sœurs de la Charité ont ainsi été contraintes de se réfugier à Bouardabouong, dans l'ouest du pays. La maison paroissiale et la maison des sœurs ont été saccagées, l'église a été profanée. Impossible de savoir combien de morts a fait cette descente du Séléka dans cette ville. L'été pour vous proposer une interview marquante de la saison écoulée sur les enfants au Sénégal et plus particulièrement à Dakar. Des milliers d'enfants peuplent en effet les rues de la capitale sénégalaise. Isabelle de Guigbon y a fondé et dirige le SAMU Social, une organisation qui intervient en urgence auprès de ces jeunes livrés à eux-mêmes et exposés à toutes sortes de dangers et de problèmes comme la santé, l'éducation et l'intégration. Pour Isabelle de Guigbon, la situation alarmante est imputable à des causes économiques, certes, mais pas seulement, comme elle nous l'expliquait.
On met toujours en avant la cause de la pauvreté et de la crise économique, mais selon moi, il y a aussi des causes qu'on pourrait appeler entre guillemets, morale des crises de société avec un délitement des situations familiales où le père, le papa est parti à l'étranger, donc il n'y a plus personne pour tenir la famille. Il y a des dérives, en particulier au Sénégal en tout cas, depuis une vingtaine d'années, de l'enseignement coranique qui utilise la tradition de charité pour faire mendier les enfants dans les rues de Dakar. Donc en fait, ça devient de l'exploitation économique des enfants. Il y a de la maltraitance, il y a un manque d'éducation, il y a de l'oisiveté dans le sens, non pas moral du terme, mais l'oisiveté qui fait que les enfants ne vont pas à l'école, donc sont complètement inoccupés, donc traînent dans la rue, donc font des bêtises, et voilà, qui mènent un peu à la délinquance, ou à la petite délinquance. Les causes, elles sont extrêmement multiples, et à mon avis, ce qu'il faut retenir, c'est que la pauvreté n'explique pas tout.
Le SAMU social donc à Dakar intervient donc spécifiquement auprès des enfants des rues. Mm-hmm. Quelle est l'aide concrète que vous leur apportez ?
L'objectif premier du SAMU social donc qui a été créé il y a plus de 15 ans par le docteur Emmanueli à Paris, la formule c'est aller vers, c'est-à-dire aller à la rencontre des exclus dans la rue, c'est-à-dire sur leur territoire. Ça peut être les SDF, ça peut être les femmes, ça peut être les enfants. Au Sénégal, on a choisi, parce que la problématique est énorme, les enfants des rues. Notre première mission, c'est d'aller à leur rencontre avec des équipes mobiles d'aide toutes les nuits dans les rues de Dakar pour leur apporter une aide complète qui va de la prise en charge médicale à la prise en charge psychosociale, à la prise en charge éducative, à la prise en charge nutritionnelle, tout ça sur leur lieu de vie. Et c'est ça la mission première et le fondement du SAMU social. Les équipes mobiles sont formées pour détecter les enfants les plus en danger, soit au niveau médical, soit au niveau psychique, et choisir la solution appropriée d'orientation, soit dans un hôpital, soit dans un centre d'hébergement. Et on a une grosse maison à Wakam où on peut héberger et prendre en charge de façon complète les enfants des rues les plus en danger, dans l'urgence. Et quand les enfants sont hébergés chez nous, il nous est aussi possible, quand ils sont volontaires, quand ils le souhaitent, de travailler à un projet de sortie de rue et de procéder à une réconciliation familiale ou un rapprochement familial et, dans le meilleur des cas, à un retour en famille.
Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous constatez véritablement, chez les enfants, une volonté de s'en sortir ?
Ma réponse, elle va être normande, oui et non. C'est-à-dire que oui, depuis que nous avons commencé, il y a plusieurs axes. On peut dire, j'aime pas dire le mot réussite parce que rien n'est jamais acquis, mais de côté positif, le premier, c'est que il y a déjà 550 enfants qu'on a réussi à sortir de la rue de façon durable. Donc ça, c'est un premier point. Et un retour en famille avec projet de scolarisation, d'apprentissage. En tout cas, l'enfant n'est plus dans la rue, il est dans un contexte familial. On a aussi des impacts très positifs au niveau de la santé. Nous avons guéri plus de 25 enfants de la tuberculose, qui est un fléau dans les conditions d'hygiène dans lesquelles vivent les enfants dans la rue. On arrive à les prendre en charge aussi au niveau médical, tout ce qui est plaies surinfectées, gales surinfectées, toutes les maladies liées à la pauvreté que nous arrivons en tout cas à traiter parce qu'on est en quotidien dans la rue. Et puis, nous leur apportons un soutien affectif et psychologique dont ces enfants ont bien besoin parce que personne ne les regarde, personne ne les voit, ils sont complètement transparents, ils sont tellement nombreux que plus personne n'y prend garde et qu'ils font partie du paysage. Et finalement, on leur apporte notre regard, ce que moi j'appelle souvent la neutralité bienveillante. Oui, ils font des bêtises, oui, ils se droguent, oui, ils volent, oui, ils mendient, mais ce sont avant tout des victimes et on ne doit pas les juger, c'est nous les adultes qui les avons mis dans cette situation. Donc, on les considère comme des êtres humains. Donc, tout ça, c'est tous les aspects positifs. Maintenant, non, ça ne marche pas, dans le sens où ils sont des milliers, et que ce n'est pas une petite association avec toute sa bonne volonté, ses professionnels formés, il y a 20 salariés sénégalais qui sont formés, qui sont motivés, etc. Et ce n'est pas nous qui allons sauver le monde et les enfants des rues. Donc, le problème, en réalité, et dans les mains des politiques, et dans les mains de la société, et dans les mains de la famille, tout ça mis en œuvre ensemble. C'est pour ça qu'on a des axes transversaux de travail, je dirais, au SAMU social, dont le principal est le plaidoyer pour faire prendre conscience aux autorités politiques que c'est une situation totalement inacceptable contre laquelle on doit lutter.
Isabelle de Guilbon, la fondatrice et la directrice du CEMU Social à Dakar. Elle était interrogée par Manuela Afigi. Voilà, c'est ainsi que se termine ce magazine. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.